Balzac est un géant, je suis effrayé à l'idée de résumer 51 ans d'une vie comme la sienne en quelques phrases, en quelques images.
Auriez-vous reconnu cette voix ? En 1960, Roger Stéphans, journaliste passionné de Stendhal, propose à Georges Simenon de nous parler de Balzac. Et ce n'est pas saugrenu.
Ce n'est pas que je ne l'admire pas, au contraire. Mais en somme, entre nous, il n'y a qu'un point commun, c'est celui du nombre d'œuvres écrites.
En fait, il y en a au moins deux autres, vous verrez tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans cette sixième visite de la saison 5 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et RadioAlpa.com. Cette semaine et la prochaine, c'est donc Balzac, car nombre de ses œuvres furent souvent adaptées au cinéma et à la télévision, visées plutôt, rien que cet automne, deux films. De plus, dans quelques-uns, on reconnaît bien quelques rues du Mans. Pour l'heure, direction Tours.
Tours a été et sera toujours les pieds dedans la Loire. Comme une jolie fille qui se baigne et joue avec l'eau faisant flic-flac en fouettant les ondes avec ses mains blanches. Si vous y allez, vous lui trouverez au milieu d'elle une jolie raie, qui est une rue délicieuse où le monde se promène, où toujours il y a du vent, de l'ombre et du soleil, de la pluie et de l'amour. Une rue bien pavée, bien bâtie, bien lavée, propre comme un miroir. Populeuse. Silencieuse à 16 heures. Coquette. Bien coiffée de nuit par ses jolis toits bleus. Bref, c'est une rue où je suis né.
Extrait de la vidéo d'accueil du château de Saché, 20 km sud-ouest de Tours, où Balzac se rendit souvent. Et pour cause, selon la légende, le maître de maison, monsieur de Margonne, serait son vrai père. Georges Simenon.
20 mai 1799. Dans une maison bourgeoise de Tours, naît un enfant du sexe mâle, déclaré à la mairie sous le nom d'Honoré Balzac. Son père, paysan du Tarn, est venu à pied par étapes jusqu'à Tours. S'instruisant en route, il est devenu clerc de procureur, a changé son nom de Balsa en Balzac, et il est maintenant un notable de la ville, il a 53 ans. Sa femme, elle, n'en a que 21, et lui a déjà donné une fille. Elle sort, elle, d'un milieu moins frustre. Anne-Charlotte Salambier est une Parisienne, née dans le quartier du Marais, d'une famille de riches marchands qui ont maintenant des charges officielles.
Pour le tendre cocon familial, on repassera. Bébé Honoré est placé en nourrice pendant 4 ans.
Mis en nourrice à la campagne, oublié par ma famille, je comptais pour si peu de choses que j'excitais la compassion des gens. C'est assez compréhensible, étant donné que pendant ces 4 ans, sa mère ne viendra le voir qu'une seule fois. Quand il va rentrer à Tours, dans cette maison bourgeoise, quelle famille va-t-il se découvrir ? Eh bien, il va trouver une mère qui est encore jolie, extrêmement active, elle dirige tout, elle voit tout, elle veut avoir la main à tout, de sorte que son père, brave homme un peu original, et qui n'a pas beaucoup envie de subir ses orages, reste enfermé la plupart du temps dans son bureau. En 1807, Honoré a 8 ans. Un garçon balourd, plutôt maladroit, que l'on met comme pensionnaire au collège des oratoriens de Vendôme, aujourd'hui le lycée Ronsard, qui était à l'époque un des collèges les plus sévères. On lit sur le registre d'entrée, numéro 460, Honoré Balzac a eu la petite vérole, caractère sanguin, s'échauffant facilement et sujet à quelques fièvres de chaleur. On dit aussi que son humeur est instable, ses colères brutales. On se plaint qu'il soit un élève médiocre, renfermé, et qui ne partage guère les jeux de ses camarades. Et ses maîtres se plaignent de ne pouvoir rien en tirer. L'ancien directeur, enfin, avoue qu'il était enfermé à peu près 4 jours par semaine, sauf par temps de gelée, ajoute-t-il, dans la loge pratiquée sous l'escalier et qui servait de cachot.
Non loin, la tour du Saillant, c'était le cachot. Honoré y fut plus de 100 fois, et c'est là qu'il dévorait les ouvrages, empruntés sans autorisation à la bibliothèque.
À Vendôme, il va rester jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près. Et c'est peut-être le moment de faire un bilan de son enfance. Ses 4 premières années, il les a passées en nourrice, sans voir sa mère, ou à peu près. 4 ans ensuite, à Tours, dans la famille, certes, mais plus souvent à l'école Le Guet, qui déteste. Il en gardera un souvenir effroyable. Ensuite Vendôme, qui déteste encore plus probablement, et je me demande même si le fait de tenir tellement à aller au cachot n'est pas pour lui un moyen de fuir ses camarades, de fuir les professeurs, de fuir en somme cette médiocrité. Il est l'éléphant, il est l'élève balourd, et il préfère être seul au cachot avec des livres. D'ailleurs, à Vendôme, sa mère ira de nouveau le voir deux fois en tout pour les 4 ans.
L'état de santé se dégradant, il est libéré des obligations scolaires.
Lorsqu'il rentrera à Tours, sa grand-mère Salambier sera là et elle dira « Voilà l'état dans lequel ils nous les rendent ».
Pour Balzac, Vendôme s'apparente au cauchemar. Pourtant, en novembre 80, sur France 3 Orléans,
Vendôme fébrile prépare dans l'Allégresse 18 expositions, 50 manifestations réparties sur 2 semaines. Il en coûte 150 000 francs à la municipalité, au département, et des milliers de bénévoles se sont mobilisés.
Et je ne résiste pas à l'évocation d'une affaire politique. Le journaliste fait référence à un article mettant en cause le fils du président de la République d'alors, qui se trouve être le conseiller général du canton voisin, et le préfet du coin dont j'imagine vous reconnaîtrez la voix.
Balzac sauce Giscard, c'est le titre d'un encadré à la une de l'Humanité du 15 novembre. Mais est-ce Balzac que ces largesses veulent valoriser ou le dauphin Henri Giscard d'Estaing? C'est la question de Wurmser.
C'est très intéressant. Inquiétant cependant pour les nombreux militants du Parti communiste qui ont participé aux activités de la quinzaine. Sans discrimination d'origine ou de discipline. C'est aussi ennuyeux pour les 40 000 travailleurs des campagnes, des villes, du Vendômois, qui se sont donnés avec un très grand bénévolat pour faire en sorte que toutes les manifestations soient accessibles, c'est-à-dire gratuites, et pour faire en sorte qu'on sorte Balzac de son cachot littéraire, nous avons voulu le délivrer pour le mettre à la portée de tous, d'éviter la culture élitiste, la culture d'appareil, la culture d'apparatchik.
Magnifique argumentaire du seigneur du Puy du Fou, n'est-ce pas ? Dans 6 mois, il démissionnera de la préfectorale plutôt que servir le président Mitterrand. Si, si. Tiens, d'ailleurs, le journaliste ne se prive pas d'une pique qui, comme l'investissement des bénévoles, ne coûte rien.
Il y avait aussi des opposants, ceux qui trouvent que le sous-préfet a plus de sang-bleu que de sang-froid et que tout cela coûte bien cher.
Sur ce, le père Balzac obtient une mutation sur Paris. La famille s'installe dans le Marais, rejoignant ainsi le côté maternel. Là encore, c'est la pension, décidément. Élève médiocre, il parvient à décrocher l'équivalent du bac, dit alors à ses sœurs.
Vous verrez qu'un jour on parlera de votre frère Honoré comme d'un grand homme. Vous verrez, vous verrez. Je ne sais pas s'il faut y voir un pressentiment ou une précoce sensation de sa propre valeur. Je ne le pense pas. J'ai l'impression, au contraire, que, étant donné toute cette médiocrité qui l'a entouré jusqu'à ce moment-là, il n'a qu'un moyen, c'est de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Faire quelque chose de moyen, faire quelque chose de simplement bien, ne peut pas suffire. Il faut qu'il crève le plafond, comme on dit aujourd'hui. Et c'est ça qu'il annonce à ses sœurs.
Sa mère, qui ne semble pas l'avoir aimée, à l'instar de celle de Simenon, que l'on écoute ici, l'étouffe presque.
Elle calcule son temps de si près qu'elle sait exactement combien il faut de minutes pour aller d'un endroit à un autre. Et le soir, elle l'oblige à dormir dans une chambre voisine de la sienne, de façon à savoir à quelle heure il cesse d'étudier, à quelle heure le matin il se lève pour étudier à nouveau.
Après un peu de droit, avoir travaillé chez un notaire et étudié à la Sorbonne, il veut enfin prendre son envol. L'autrice Anne-Marie Baron pour le Paris de Balzac sur Arte en janvier 2021.
En 1819, à 20 ans, Balzac obtient de ses parents d'habiter une mansarde au 9 rue de Lesdiguières. Donc il a à peine de quoi vivre, à peine de quoi se chauffer, se nourrir. Il meurt de faim, sa seule distraction, c'est de se promener dans les rues du quartier. Tous les personnages de jeunes gens de la comédie humaine, qu'ils soient provinciaux ou non, ont tous ce passage obligé dans une mansarde pour écrire, en particulier le fameux Raphaël de Valentin de La Peau de Chagrin.
Rien n'était plus horrible que cette mansarde aux murs jaunes et sales, qui sentait la misère. La toiture s'y abaissait régulièrement, et les tuiles, disjointes, laissaient voir le ciel.
En 80, Michel Favart réalise pour la télévision une adaptation de La Peau de Chagrin.
Je quittais ma mansarde en laissant tout ce qu'elle contenait à Pauline et à sa mère, et je décidais de mourir de plaisir. Rastignac fut mon complice. Je devais un viveur, un débauché. Rastignac jouait pour nous deux.
Il a envie, bien sûr, de devenir riche, de gagner de l'argent, mais surtout de devenir riche en écrivant, parce que son but, c'est d'écrire.
Et pour cela, Balzac va travailler avec fureur, la nuit dans sa mansarde et le jour dans les confins du Marais, à la bibliothèque de l'Arsenal. Ancienne résidence des grands maîtres de l'artillerie, l'édifice est un tremplin pour les jeunes auteurs en quête de succès.
Olivier Bosque, directeur de la bibliothèque de l'Arsenal.
Balzac trouve dans la bibliothèque, finalement, tous les savoirs du monde. Et c'est ça qui l'attire dans ce lieu, ici, à l'Arsenal, où il retrouve toutes ses références, bien la littérature étrangère, aussi bien de la littérature française, des références philosophiques, de la littérature antique. La bibliothèque, dans ce Paris, je dirais, de la première partie du XIXe siècle, ce sont presque les premières marches de l'ascension sociale. Il va mettre en scène, à son tour, des protagonistes qui vont fréquenter les bibliothèques, fréquenter ce Paris, qui n'est pas encore le Paris industriel et financier, mais je dirais un des premiers cercles sociaux qu'il va pénétrer.
Je passe vite sur ces entreprises industrielles d'imprimeurs et de fondeurs qui ont toutes capoté. C'est là qu'il se met enfin à écrire pour de bon. D'abord comme Simenon, des romans populaires sous pseudonyme. Et puis...
Au moment où il a 30 ans, c'est tout à coup le succès, on pourrait même dire le triomphe. Il vient de publier Les Chouans, le premier livre qu'il publie sous sa signature, cependant sans y mettre la particule. Du jour à l'autre, c'est cette gloire, ou à peu près, qu'il a tant cherché. Et Balzac, je dois dire, en profite immédiatement, on dirait qu'il s'y roule. Pourtant, il signe de tous côtés des contrats d'édition, pour ainsi dire, jour après jour, et pourchassé par les éditeurs, par les directeurs de journaux, et même par les tribunaux, qui l'obligent en quelque sorte à écrire. C'est en une année.
14 ouvrages. 14.
Sans compter La peau de chagrin, qui publie immédiatement et qui a encore plus de succès.
En remontant la Seine, le long du Louvre, le Palais Royal est un village dans la ville, où le romancier peut observer toute la société parisienne. Sous les galeries de pierre et de bois se dévoile un véritable théâtre social. Un haut lieu de commerce des biens et des corps, couru par ceux que l'on appelle les viveurs.
Nicole Masson, autrice.
Le Palais Royal à l'époque, vous avez les belles boutiques qui ont pignon sur rue au rez-de-chaussée, et puis vous pouvez avoir un prêteur sur gage interlope qui se trouve tout en haut, une chambre de prostitution à côté, etc. Jusqu'à des sous-sols aussi où il y a d'autres activités, comme par exemple des tripots. Donc dans un même lieu verticalement, vous pouvez avoir un mixte social très différent.
Au numéro 33 et au 113, les fortunes se jouent à la roulette, au craps ou au dé. Fasciné par le concept de coup du sort, Balzac fait du jeu l'une des matrices de la comédie humaine, comme le moment suprême où le hasard décide de la destinée de ses héros.
Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si Rome a eu ses gladiateurs, Paris s'enorgueillit de son palais royal, dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flots.
Comme dans tous les établissements de jeu, il y a à la fois des gens fortunés qui aiment simplement jouer pour se distraire, mais il y a aussi des désespérés, dont parle Balzac à plusieurs reprises, qui attendent frénétiquement l'ouverture des tripots pour pouvoir essayer de se refaire en jouant leur dernière pièce.
Cet après-midi, je suis allé dans une maison de jeu, en oubliant la promesse que j'avais faite à mon père. J'ai joué mon dernier Napoléon, j'ai perdu. Je te l'ai dit, Horace. Des hommes sans âme, une femme sans cœur. Voilà mon histoire.
Alors, le héros le plus emblématique de tout cela, c'est effectivement le héros de La peau de chagrin, puisque l'ouverture même du roman se fait sur l'arrivée de Raphaël au Palais Royal. Il ne lui reste plus qu'une pièce, il va aller la jouer et il va la perdre. Et en sortant, il se dirige vers la Seine pour se jeter à l'eau.
Il pense être sauvé en achetant tout et tout le monde.
Oh, diable, la mort, je veux vivre maintenant, je peux vous avoir tous. Allons, canailles de la haute société, bénissez-moi, je suis votre pape.
Tais-toi, tu es complètement ivre.
Chien, vous, niche. J'ai des trésors. Je te donnerai des cigares de la Havane.
Arrête.
Je suis millionnaire. Si tu es millionnaire, laisse-moi dormir. Tu vois cette peau? J'ai passé une heure avec un vieux fou qui m'a donné ça. Tout le monde est fou. Vous avez eu raison de penser à moi pour votre journal de canaille.
Je peux acheter toute votre boutique de journaliste. Émile, toi tu seras mon valet, tu as une belle tête de valet. Tu feras les nécrologies.
Quand?
Cette peau ressemble à un cuir avec lequel on fait les reliures, le chagrin.
Un bon mot, le chagrin.
On dit que c'est très difficile à travailler. Elle rétrécit avec le temps.
Tu ne crois pas à son pouvoir?
Non. Je crois que t'es complètement ivre.
Le pouvoir, son ivresse, l'argent, il en est également question dans cette adaptation cinéma, cette fois celle du chef-d'œuvre inconnu, publié la même année. Bruno Mazur et Georges Bégou, JT de la 2, en 91.
Depuis cet après-midi, sur vos grands écrans, l'un des films événements du dernier festival de Cannes, La Belle Noiseuse de Jacques Rivette avec Michel Piccoli et Emmanuel Béard. La Belle Noiseuse, entendez par là la Belle Enquiquineuse, pour ne pas dire autre chose, c'est le récit des rapports entre un peintre et son modèle.
La Belle Noiseuse raconte le retour à la création d'un artiste qui avait abandonné son art depuis 10 ans.
Un marchand de tableaux qui dit au peintre, écoute, tu n'arrives plus à travailler avec le modèle, avec ta femme, trouve un autre modèle. Tiens, je t'apporte un modèle. Tu es d'accord? T'as un contrat. Et j'achète le tableau. Et à la fin, le peintre dit, c'est mon dernier tableau posthume. Et le marchand dit, ça vaut encore plus cher.
Au-delà de l'anecdote, c'est l'élaboration d'une œuvre, l'analyse des sentiments qui prédominent. Et si Emmanuel Béard pose nu pendant des heures, ce n'est pas cela que Rivette veut montrer d'une manière clinique ou érotique.
C'est comme une actrice avec un metteur en scène, c'est-à-dire que c'est une révolte positive. C'est effectivement une impression de possession, de don de soi-même à l'autre, qui est le metteur en scène ou qui est le peintre. C'est pas mon cul qu'on voulait, c'était mon âme. Donc c'était ça qui m'intéressait.
Pour les amateurs, vous êtes prévenus, le film dure 4 heures. Mais retour à Sachet avec la bonne Angélique.
Monsieur Pertuis, vous voulez une tasse de café?
Ah.
C'est le café de Monsieur Honoré, hein? C'est un café qu'on fait pour lui, il en veut pas d'autre. Il en boit tout le temps qu'il travaille.
Eh ben, c'est pas de refus.
Mon café est venu de Paris. J'en prenais ici de détestables. Et j'attribuais mon incapacité cérébrale à ce mauvais café. Je vais voir si les petits bourgeois s'en trouveront mieux. Le café tombe dans votre estomac. Dès lors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille. Et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées. La cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop. L'artillerie de la logique arrive avec son train et ses gardousses. Les traits d'esprit arrivent en tirailleurs. Les figures se dressent, le papier se couvre d'encre, car la veille commence. Et finit par des torrents d'eau noire, comme la bataille par sa poudre noire.
Une bataille chez Balzac? Oh, mais ça me rappelle celle d'Hélo dans Le Colonel Chabert. Pour Olivier Barraud, dans Un livre un jour sur France 3 en 99, Balzac alors...
Il est mondain, endetté, séduisant, plutôt bref... Dans l'intrigue, sinon dans le style, Chabert est un conte noir, une tragédie intime, toute baignée par le souvenir de l'empereur.
Monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler?
Au colonel Chabert.
Je vous écoute.
Monsieur, je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation.
Vous pouvez nous laisser, Bucard.
Mais...
Non, non, reposez-vous bien.
Bien, patron. J'ai tout préparé.
Je verrai tout cela, c'est bien. Allez, Boucard, à demain. Parfait. Monsieur, je suis à vous. Ne vous formalisez pas si je dois lire quelques documents tout en vous prêtant l'oreille la plus attentive. Simplement, au milieu de la nuit, les minutes sont précieuses. Je vous prierai d'être exact et bref. Allez au fait, sans digression. S'il est nécessaire, je vous poserai moi-même les questions utiles.
Donc, Chabert. Colonel, je commandais un régiment de cavalerie à Hélo, où je suis mort le 8 février 1807. J'ai été pour beaucoup dans la charge que fit Murat, qui décida du gain de la bataille. Oui, je peux même dire que c'est moi aussi qui ai sauvé l'affaire. J'ai traversé les lignes russes, 3 lignes qui se sont regroupées derrière moi au moment où nous revenions vers l'empereur, après avoir dispersé et massacré les Russes, quand 2 officiers... Des géants. Ils m'attaquent ensemble et m'ouvrent le crâne à coups de sabre. Et je tombe de cheval.
Vous tombez de cheval?
Murat vole à mon secours. Et voilà 2000 cavaliers qui me passent sur le corps. Excusez du peu. La terre tremblait, je la sentais bouger dans mon ventre. 2000. Un galop qu'on ne reverra jamais. La canonnade. Les hurlements. Je sentais toute la bataille me secouer le corps. Jusqu'à ce que la mort me prenne. Tout est raconté dans Victoire et conquête des Français de 1792 à 1815. Vous avez bien ça dans vos livres. Alors on annonce ma mort à l'empereur, et lui, vous verrez, page 206. Mon pauvre Chabert est donc mort. L'empereur. Deux chirurgiens qui ne s'étaient même pas penchés sur mon corps pour m'écouter le cœur avaient signé l'acte officiel de mon décès, et marche, me voilà cadavre.
Le monde a changé. Sa femme s'est remariée, Napoléon n'est plus. Un spectre ou un vivant? Un amnésique ou un fou? On ne revient pas impunément du royaume des morts. Il vous appelle, vous requiert, vous aspire.
À cause de tout ça, aujourd'hui, mon nom est insupportable. Et je viens le réclamer.
Face à Lucchini, un Depardieu à son meilleur. Allez, quatrième et dernière étape de ce périple pour aujourd'hui, le portrait de son probable père à Saché et d'un des grands destins féminins de la littérature française.
Dans Eugénie Grandet, on retrouve le portrait de Monsieur de Margonne, son hôte de Saché, qui n'est d'ailleurs pas loin du célèbre avare, qui était comme lui le plus fortuné du département.
Le livre, j'en avais pas un très bon souvenir. J'en avais un souvenir de collégienne où j'avais trouvé ça difficile. Puis j'avais pas vraiment saisi les enjeux. Et puis dans cette vie étriquée, j'avais trouvé ça assez étouffant en fait.
Faudra que j'aille à la boucherie.
De la viande. Le bouillon c'est bien assez.
Sans argent, qui voudrait de moi?
Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur.
Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays.
Volontiers. Vous n'avez jamais quitté ces lieux?
Parce que vous croyez qu'on m'y autorise?
Je vous montrerai Paris un jour.
Enlevez-vous tout cela de la tête. Et puis tu le connais à peine.
On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille. Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur?
Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille.
Il est de bon ton de ne rien attendre pour une femme si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes.
Dans la version de Marc Dugas, Eugénie, c'est Joséphine Japy, et sa mère, c'est Valérie Bonneton.
Bah évidemment, c'est vrai qu'on pourrait tomber dans l'écueil parce qu'on parle tellement du féminisme aujourd'hui, c'est presque dans tous les films, je dirais. Mais je trouve que ça l'était déjà chez Balzac, parce qu'il aime les femmes, il en parle. Donc certainement, je pense qu'inconsciemment, ça a touché Marc. Et dans ce sens, c'est moderne. Non, mais sans que ce soit revendiqué, je trouve.
Marc, au début, voulait que ce soit qu'on découvre très tard Eugénie, en fait, vraiment pleinement. C'est-à-dire qu'au début du film, on ne fait que l'apercevoir, on ne la saisit jamais complètement. Et au moment où elle rencontre son cousin, dont elle tombe amoureuse, assez immédiatement, hein, c'est un coup de foudre, parce qu'elle n'attend que ça, en fait. Elle est amoureuse de l'amour. Elle veut que ça lui tombe dessus, elle veut que ça lui arrive. Et la première occasion est la bonne. Après, elle est sincère. Dans ce qu'elle construit.
Des 8 adaptations, je me rappelle de la 7e, en 94, tournée en partie autour de la cathédrale du Mans, avec Jean Carmet et Pierre Vernier, derniers survivants de la bande à Belmondo, Bedos, Kremer et tant d'autres.
Grandet se débarrasse de son neveu.
Il nous en débarrasse par la même occasion.
Avec cette patache, le pauvre garçon n'arrivera pas à Nantes avant 10h du soir. Ah, tout le monde est là.
Dieu vous garde, mon neveu.
Revenez riche. Vous trouverez l'honneur de votre père intact.
Merci, mon oncle.
Bon voyage.
Merci. Au revoir, Eugénie.
À Paris, monsieur, les choses se présentent, on ne peut mieux. Vous ne pouvez pas oublier le succès de mes premières démarches. C'est d'une voix unanime que les créanciers m'ont élu liquidateur. Personne n'a songé une seconde à passer sa créance au compte de profits et pertes. Chacun a pensé, Grandet de Saumur paiera. Mais ça, monsieur, vous le savez depuis 6 mois.
C'est toujours bon à entendre. Maintenant, donnez-moi du neuf.
La semaine dernière, j'ai distribué 47% à chaque créancier. Grâce à la vente des valeurs, possessions, biens et broutilles appartenant à votre frère décédé. Alors chacun a célébré votre probité, votre sens de l'honneur et celui de votre famille.
Compliment d'autant plus avantageux que ces opérations ne vous ont pas coûté un centime.
Si vous prenez un roman et que vous l'adaptez exactement tel qu'est le roman, ça n'a pas d'intérêt pour le cinéma. Pas pour moi, c'est que le roman suffit à lui-même. Si vous voulez sortir complètement du roman en gardant certaines choses, c'est-à-dire vraiment très très largement, très librement inspiré de, et de dire par exemple on va faire une transposition de Johnny Grandet aujourd'hui, je comprends que ça puisse intéresser, moi ça ne m'intéresse pas. Et en fait ce qui m'intéresse c'est l'espace entre les deux, entre le respect absolu de l'œuvre et une sorte de défiguration de l'œuvre.
C'est ainsi que se termine presque notre première visite à Balzac, suite et fin la semaine prochaine. Rediffusion lundi midi, d'y retrouver les podcasts sur le site radioalpa.com. Mais ne les quittons pas sans musique et sans cette chanson rare et tendre, chantée par Bourvil en 59. Bonne semaine à toutes et tous et ne vous privez pas de vous évader en lisant et en allant au cinéma.
Aujourd'hui, c'est très difficile de faire un film d'époque. Et à Saumur, c'était un peu compliqué, donc on a tourné au Mans. Et puis là, tout autour de Saumur, dans des endroits où on a des axes qui permettent de faire vraiment un film d'époque sans avoir des nuisances. La région Pays de Loire a été très accueillante. Elle nous a, d'abord, elle a soutenu le projet depuis le début.
C'est une très belle région, moi, que je connaissais mal et ça m'a plutôt donné envie de revenir.
Monsieur Balzac. Je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Le long de la Seine, faudrait que je me donne la peine d'acheter un de vos bouquins. Oh oui, faudrait bien. Monsieur Balzac, paraît que vous racontez la vie. Monsieur Balzac, comme si vous l'aviez créé, pardi. Le long de vos pages, comme dans une belle image, on retrouve toutes les couleurs, nos joies et nos malheurs. Alors, expliquez-moi un peu, pourquoi ça va jamais comme on veut, qu'on fait toujours ce qu'il faut pas faire, que l'on se crée tant de misère. Monsieur Balzac, là-haut du côté de Montparnasse, Monsieur Balzac, il y a votre statue sur une petite place. Vous avez l'air sévère, un peu comme mon beau-frère. Lui il n'écrit pas, il est trop lourd, mais sa vie ça ferait bien un prix Goncourt.
Balzac, cet auteur populaire, la concierge d'Alain, ne lui déclarait-elle pas un jour « Balzac, moi, j'aime ça, c'est vous, c'est moi ».